Chapitre 39. À l'intérieur de l'œil. Bowman découvrit Explorateur 1 tel qu'il l'avait vu la dernière fois, flottant en orbite autour de la Lune qui occupait la moitié du ciel. Il y avait pourtant une légère différence dans son aspect. Certaines inscriptions sur les écoutilles, connexions et aux points vitaux s'étaient ternies par suite de l'exposition prolongée au feu direct du soleil. Quant au soleil, aucun humain ne l'eût reconnu à première vue. Il était certes trop brillant pour une étoile, mais on pouvait le fixer sans peine, et il ne produisait pas la moindre chaleur. Bowman tendit ses mains nues dans les rayons qui filtraient par la baie et ne sentit rien. Il aurait pu tout aussi bien tenter de se réchauffer à la clarté de la lune, autant que le panorama étranger qui se déployait à 50 milles plus bas. Cela lui rendait plus évident sa solitude et son éloignement de la Terre. Il quittait le monde de métal qui avait été son foyer durant tous ces longs mois et il ne le reverrait peut-être jamais. S'il ne revenait pas, l'astronef poursuivrait ses fonctions, transmettant les relevés de ses instruments jusqu'à ce qu'une ultime défaillance de ses circuits le réduise au silence. Et s'il revenait ? Il pourrait espérer survivre, et peut-être même vivre, quelques mois de plus, au mieux, car le système d'hibernation, sans ordinateur, était désormais inutilisable. De toute façon, il ne pouvait compter rester en vie jusqu'à ce qu'Explorateur 2 aborde l'orbite de Japet dans 4 ou 5 ans. Comme le croissant doré de Saturne s'élevait dans l'espace, il refoula ses pensées. Il était le premier humain à contempler pareil spectacle. Saturne avait toujours présenté à la Terre sa face pleine, totalement illuminée par le Soleil. À présent, la planète géante apparaissait comme un arc délicat que coupait l'infime trait de lumière des anneaux, pareil à une flèche sur une corde tendue, prête à jaillir vers le Soleil. Titan était visible comme une étoile brillant au sein des étincelles plus pâles des autres lunes. Avant la fin de ce siècle, les hommes les auraient toutes visitées. Mais si elles recelaient des secrets, Bowman ne les connaîtrait jamais. Le bord de l'œil immense et blanc glissait vers lui. Plus qu'une centaine de milles, une dizaine de minutes, et il survolerait son objectif. Il eût aimé être certain que ces mots allaient vraiment atteindre la Terre 1 heure et demie après, à la vitesse de la lumière. L'ultime ironie serait que, par suite de quelques pannes de l'émetteur, ils disparaissent en silence sans que jamais nul ne sache ce qui avait pu lui arriver. Loin au-dessus de lui, le vaisseau brillait sur le fond noir de l'espace. Il l'accompagnerait pendant un moment encore, jusqu'à ce que la capsule amorce son freinage et le laisse disparaître à l'horizon. Alors, il resterait seul au-dessus de la plaine blanche, seul avec l'énigme noire qui en marquait le centre. Le bloc d'ébène monta sur l'horizon, éclipsant les étoiles. Bowman fit basculer la capsule sur ses gyroscopes et utilisa toute la puissance de freinage dont il disposait. Il descendit alors vers la surface de Japet en un arc ouvert, immense. Sur un monde à gravité plus forte, cette manœuvre eût coûté une quantité invraisemblable de carburant, mais ici, l'appareil ne pesait plus que quelques livres, et il pourrait encore se déplacer quelque temps sans risquer d'épuiser ses réservoirs et de se trouver immobilisé loin de l'astronef. Quoique cela ne fît sans doute guère de différence. Il était maintenant à 5 000 de la surface et se dirigeait droit sur l'immense monolithe noire à la géométrie parfaite qui se dressait au-dessus de la plaine lisse. Il devait exister bien peu de constructions aussi gigantesques sur Terre. Les derniers calculs de Bowman indiquaient une hauteur de 900 mètres. Pour autant qu'il pût en juger, les proportions du monolithe de Japet étaient les mêmes que celles d'AMT-1. L'étrange rapport 1-4-9 se répétait. « Je ne suis plus qu'à 3 000 maintenant. Je me maintiens à 120 mètres d'altitude. » Toujours aucun signe d'activité sur mes appareils. La surface reste absolument lisse. Il devrait pourtant y avoir des traces de météorites après tout ce temps. Et je ne vois aucun débris sur le... Je suppose que je peux dire le toit. Pas d'ouverture non plus. J'espérais pouvoir pénétrer à l'intérieur. Voilà. Je suis juste au-dessus, à 150 mètres d'altitude. Il ne faut pas que je perde trop de temps. L'astronef s'éloigne et il sera bientôt hors de portée. Je vais me poser. C'est sûrement assez solide. Sinon, je redécollerai aussitôt. Une minute. C'est étrange. La voix de Bowman s'éteignit dans un silence stupéfait. Il n'avait pas peur. Tout simplement. Il ne parvenait pas à décrire ce qu'il voyait. L'instant auparavant, il dominait un vaste rectangle plat d'environ 250 mètres de long sur 60 de large et qui semblait fait d'un matériau aussi dur que le roc. Maintenant, ce rectangle paraissait s'éloigner de lui, comme dans ces illusions d'optique où un objet en relief semble se renverser et présenter soudain au regard son côté le plus éloigné. En fait, c'était un peu ce qui se produisait pour l'énorme masse. Bowman ne voyait plus un monolithe dressé sur la plaine blanche. Ce qui lui avait semblé être le toit se trouvait soudain à des profondeurs infinies. Durant un instant de vertige, il eut l'impression de contempler l'intérieur d'un puits prodigieux et rectangulaire qui défiait les lois de la perspective, car ses dimensions ne diminuaient en rien avec la distance. L'œil de Japet s'était ouvert brièvement, comme pour chasser quelques grains de poussière qui l'irritaient. Et David Bowman eut juste le temps de prononcer une dernière phrase que les hommes de contrôle de mission qui veillaient à 900 millions de milles et à 90 minutes de là ne devaient jamais oublier. C'est creux, jusqu'à l'infini. Et, oh, mon Dieu, c'est plein d'étoiles.